Je présente rapidement également Jean-Bernard Ouédraogo qui va lancer et mener la discussion, lancer en tout cas, après on va voir, il est directeur de recherche au CNRS, membre de l'Institut interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain à l'EHESS, après avoir été secrétaire exécutif adjoint, si je ne me trompe pas, du Council for the Development of Social Science Research in Africa, le CODESRIA. Centré sur l'Afrique noire, ses travaux portent sur la sociologie du monde ouvrier, de l'urbanité, de la violence et des images. Et il travaille aussi sur l'épistémologie et la méthodologie des sciences sociales. Il a notamment co-dirigé, je ne cite qu'un titre, en 2019, l'ouvrage collectif « L'enquête et ses graphies en sciences sociales ».
Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de reprendre quelques points que j'ai moi repérés pendant que j'étais là et réagir un tout petit peu, peut-être poser quelques questions, parce que ce qui était très intéressant dans tout ce que j'ai entendu, c'est le nombre de questions qu'on se pose soi-même quand on écoute les gens. On s'est dit, mais tiens, il y a tel aspect qu'on aimerait développer plus. Et voilà. Bon, je commence par... Alors, il y a une question qui m'était venue dès le départ, quand on a... au début de ce matin, j'ai eu l'impression que les références étaient justement géographiquement situées. Alors que pour beaucoup d'auteurs qu'ils ont cités, il y a eu des liens avec l'Afrique, avec d'autres, avec la Russie même pour certains. Je pense à James, par exemple, qu'on va retrouver par la suite dans cette histoire de philo, qui s'est investi beaucoup sur l'Éthiopie. Donc on n'en a pas parlé, qui a eu des conséquences après sur la façon dont il a pensé l'Haïti. Et aussi, cette question de la révolution haïtienne, je me suis toujours posé la question, tous ces auteurs-là, on a dit tout à l'heure qu'ils étaient ils avaient comme référence la révolution française, mais beaucoup disent que c'est la révolution russe. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous a un peu questionné ou pas? Et si c'est la révolution russe, de quelle révolution, de quelle interprétation s'agit-il? Alors, il y a aussi un autre problème de ce qui a été dit tout à l'heure, depuis ce matin, sur le marxisme des Caraïbes. Je suis vraiment perdu, moi, parce qu'on ne sait pas de quel marxisme il s'agit. Parce que c'est un continent, le marxisme en tant que tel. Donc, je suis un peu. J'aimerais bien qu'on me dise, James, de quel marxisme il s'agit, et les autres, de quel marxisme, quelle est la référence à la tradition, à une des traditions marxistes. Et là, je n'ai pas vraiment vu la question. Le problème qui se posait là. Et voilà. Bon, on a aussi. Il a été question de conception matérialiste. Alors là, ça, c'est, le philosophe me dira que c'est depuis les Grecs jusqu'à peut-être Althusser, il y a tellement de matérialisme qu'on ne sait pas de quel matérialisme il s'agit. Et des fois, on a du mal à vous suivre parce qu'il y a vraiment un problème très, très théorique, très important qu'il faut à clarifier. Et j'ai eu du mal à vous suivre. Et justement, il y a ce que vous avez dit sur les sociétés précapitalistes et les sociétés capitalistes. La nature du régime pendant la révolution haïtienne, tout ceci, il faut vraiment aller plus en avant pour pouvoir comprendre ce qui a été dit d'ailleurs par ces auteurs-là. Je me souviens, il y a quelques semaines, j'étais dans un jury d'un étudiant en master qui comparait James et Césaire. C'était assez compliqué pour démêler tout ceci. Et je pense que là, c'est vraiment une des questions les plus importantes. Alors, il y a aussi cette question, je reviens à ce que madame a dit tout à l'heure. J'étais surpris parce que la question de la reproduction, elle était presque réduite à une question démographique, presque physique. Et moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que cette reproduction-là, elle concerne la reproduction du capitalisme lui-même? Comment la reproduction de la force de travail, la reproduction de physique de l'esclave, comment cette reproduction de physique de l'esclave renvoie à une production, une reproduction du capitalisme en tant que système de production. Et là, c'est vraiment une question centrale parce que il n'a pas été question de plus-value dans ce qu'on a dit sur la reproduction. Il n'a pas été question de salaire. Il n'a pas été question d'exploitation. Or, il me semble que la question de la reproduction, même dans un régime esclavagiste, la question du salaire et de la reproduction du capitalisme en tant que système de production de plus-value est centrale pour qui veut comprendre le rôle du corps dans cette machine-là. Et vous avez dit aussi que les corps étaient devenus du capital. Bon, le problème, c'est le capital pour qui ? Si c'est le capital pour les capitalistes, pour les esclaves, c'est quoi pour leur corps dans ce cas-là ? Alors, le dernier point que je voulais souligner ici, il a été dit tout à l'heure que, enfin, j'ai eu l'impression que le système tel qu'on avait, on l'a analysé, était complètement dans un régime, comment dire, dans un périmètre capitaliste pur, si je veux dire. Or, dans certains cas, par exemple, comme en Afrique du Sud, le cas de l'apartheid, on a vu que le capitalisme aussi s'étendait à d'autres, à d'autres systèmes de production. Et là, c'est une vieille question marxiste. Hein. On trouve ça dans la critique de l'économie politique de Marx, où il dit que le capitalisme n'a pas inventé le monde, il soumet les systèmes à sa logique. Et ça, on retrouve ça dans les travaux, je me réfère aux travaux de Meyassou, par exemple, sur les modes de production domestique, on voit bien que le capitalisme, il a comparé d'ailleurs avec ce qui se passe chez les chômeurs en France, hein, ce qui est le même système de régime, et il renvoie ce qu'il ne veut pas dépenser, ce qu'il ne veut pas mettre comme salaire sur d'autres régimes, quand il le peut. Hein. Il y a des moments où il ne le peut pas, mais il y a des cas où il le peut. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour ne pas être trop long. C'est que des questions, hein, mais pardonnez mon ignorance si je pose des questions trop banales.
La position de James, le marxisme de James, c'est toujours un, pour dire vite, un marxisme anti-stalinien, au départ trotskiste, comme l'a dit Jean-Jacques, avec, dans les années 30, avec ensuite une rupture avec net avec le trotskisme autour de deux critiques chez James. Tout d'abord, critique de l'idée de l'URSS comme État ouvrier dégénéré, ou à laquelle il oppose l'URSS comme capitalisme d'État, ce qui les rapproche d'ailleurs des États-Unis. Et autre critique, plus forte encore, la critique du parti d'avant-garde comme modèle et une défense de l'auto-émancipation des masses. Et donc, on peut dire passage du trotskisme à ce qu'on appellerait aujourd'hui un marxisme libertaire. Et sur l'influence de la révolution russe, je pense que c'est extrêmement important chez James. Même après la rupture avec le trotskisme, il va dire l'histoire de la révolution russe de Trotsky, c'est un des plus grands livres de l'histoire de l'humanité. À la fin, il rajoute un autre qui est Black Reconstruction de Du Bois. Et en fait, je pense, j'ai jamais vraiment essayé, qu'on pourrait quasiment relire les Jacobins noirs. Enfin, il y a cette idée que là, en fait, une sorte de la révolution haïtienne comme prélude, préface à la révolution russe. Et on pourrait quasiment relire les Jacobins noirs, il faudrait essayer, comme une sorte de palimpseste de l'histoire de la révolution russe de Trotsky, avec des personnages qui se... Enfin, Toussaint Louverture, c'est un peu Lénine quand même dans son texte. Et il y a quand même d'autres... sans que Dessalines soit Staline pour autant, mais ce n'est pas des correspondances, mais il y a un jeu de miroir avec de réécriture, en fait, pour faire d'une révolution dans les colonies la préfiguration de ce qu'il appelait lui-même encore pendant longtemps la révolution mondiale.
En fait, vous avez raison, mais ce que je voulais pointer, je ne l'ai pas dit totalement, mais je comprends tout ce que vous dites, parce que Trotsky lui-même n'a pas tout à fait cautionné les écrits de James. Mais il faut le savoir, il y a des passages où Trotsky dit ça, le mot, je ne vais pas le citer, il dit des mots très durs sur son texte, en particulier sur, je vois bien, sur sa position sur l'Allemagne, hein, l'Allemagne nazie et Staline. Bon, là, il y a vraiment un truc, une rupture très nette. Mais la question, c'est est-ce qu'on peut penser un marxisme sans employer le mot marxisme ? Est-ce que dans un endroit où la lutte sociale est en effervescence, les gens prennent les militants ou les activistes ils se nourrissent de plein de choses. Alors, la question, c'est savoir, est-ce qu'on peut encore l'appeler marxisme? Voilà, c'est ça ma question. Et si on l'appelle marxisme et qu'on simplifie, on pense que c'est le marxisme de Marx. Et là encore, vous savez, il y a toute une gradation des manuscrits de 44 au Capital. Pour beaucoup, ce n'est pas le même Marx. Non. Et en plus, il y a Lénine, il y a Zinoviev, il y a Plekhanov, il y a Staline. Il y a plusieurs variétés de chemins vers le, enfin, d'interprétation. Et on peut reculer, hein, les partageux aussi sont un peu des marxistes, hein, y compris l'abbé Bernier. Donc il y a tout un courant. Et si on ne fait pas gaffe, on ne va pas à l'intérieur regarder réellement comment se composent les catégories et quels sont les objectifs politiques de ces catégories, on ne peut pas interpréter un phénomène social comme la révolution de 1804. Et c'est ça qui est, à mon avis, un des problèmes centraux, y compris pour les auteurs eux-mêmes. Hein. Même quand on les lit, on sent bien qu'il y a un vrai problème d'interprétation. Ce n'est pas la mécanique simplement du mode de production, de succession des modes de production, non. On sait bien que même dans la rhétorique marxiste classique, ce qu'on appelle la formation économique et sociale, c'est l'empilement de plusieurs modes de production. Donc, il y a plusieurs éléments là-dessus. Quoi. Moi, je ne voulais pas aller plus loin. Mais...
Quelques mots à propos de ce qu'on peut appeler la pensée marxiste haïtienne. C'est que moi, je pense que c'est une... Chez les haïtiens, chez les marxistes haïtiens, il y avait une tendance à penser... à interpréter Marx à partir de l'histoire d'Haïti. L'histoire d'Haïti, c'est-à-dire que ce soit l'idéal radical de la révolution haïtienne et que ce soit aussi l'histoire, disons, les trois siècles d'esclavage qu'a subi Haïti. Haïti, anciennement appelé Saint-Domingue. Du coup, on est tombé dans ce qu'on peut appeler au XXe siècle mille marxistes, l'expression de Tozel. Donc, il y a plusieurs interprétations du marxisme. Donc, on ne va pas demander... qui est plus marxiste ou pas, mais l'essentiel chez les marxistes haïtiens, que ce soit avec le premier marxiste haïtien qui est Jacques Roumain, c'est pendant la première moitié du XXe siècle, il y avait une tendance à inclure la question coloniale dans ce qu'il appelle la pensée marxiste haïtienne. Il était aussi contemporain du marxiste péruvien qui s'appelle Mariátegui et qui a créé, lui, il a essayé de forger un lien entre l'indigénisme et le marxisme. Donc, ce que je voudrais mettre en avant, c'est que l'interprétation haïtienne du marxisme est inachevée. Est inachevée dans la mesure où Jacques Roumain l'a commencé dans les années 20-30, au même moment de son devenir marxiste avec C.L.R. James aussi. Mais C.L.R. James, c'est beaucoup plus caraïbe anglophone. Nous, c'est beaucoup plus caraïbe francophone. Alors. Donc, ce qu'on peut appeler vraiment l'explosion du marxisme haïtien, ça a eu lieu dans les années 40-50 avec les Jacques-Stéphane Alexis, Étienne Charclier. Et c'est là qu'on a retrouvé les deux grandes problématiques de ce qu'on appelle la pensée marxiste haïtienne. C'est la problématique de l'aliénation et la problématique de la formation sociale haïtienne. Donc l'idée d'introduire, de penser... Marx, à partir de l'idéal de la révolution haïtienne, disons l'idéal radical de la révolution haïtienne, comme Marx, lui, l'a fait à partir de la révolution française sur la question juive, pour montrer comment la révolution française était un peu incomplète. Cette idée, je pense que c'est une pratique singulière et originale qui mérite d'être approfondie, et ça donne à penser une forme de marxisme anticolonialiste, ce que j'appelle l'anticolonialisme, parce qu'on était un peu dans les années 50-60, donc, pour essayer d'introduire les marxistes hétérogènes qui ont eu lieu au XXe siècle. Donc, j'évite de penser le marxisme à partir du bon ou du mauvais, ou bien ce qui est plus marxiste ou pas. Donc, c'est à partir du lieu haïtien qu'on essaie d'accoucher un marxisme. Après, l'autre élément qui m'intéresse, c'est la révolution russe et la révolution française. Moi, je pense que la première génération de marxisme dominé par Jacques Roumain sous l'occupation américaine 1915-1934, il y avait vraiment une présence prédominante de la révolution russe alors, dans les références. Mais à partir des années 40-50, on trouve beaucoup plus la révolution chinoise, alors, c'est-à-dire en 1949, et toujours attachée à l'idéal de la révolution de 1804 en même temps. Donc, Jacques-Stéphane Alexis, par exemple, il s'est rendu dans les années 1950 en Chine pour concilier les leaders communistes, mais en même temps, il garde ce qu'on appelle l'idéal de la révolution de 1804 de concert ensemble avec ce qu'on appelle la révolution chinoise. Donc, voilà.
Oui, parce que en fait, l'interprétation, le choix du modèle interprétatif, que ce soit la révolution russe ou la révolution française, c'est jamais neutre. C'est-à-dire que derrière ça, il y a comme disent les marxistes, il y a un stade de développement particulier qui est pointé. Il y a aussi des stratégies politiques qui sont mises en place. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de ramener ça à simplement des circulations de références, mais ce que moi j'aimerais savoir, c'est, bon, peut-être que là, c'est pas le, on aura l'occasion d'en discuter, c'est la manière dont eux-mêmes, ils interprètent la dynamique de la société locale. C'est ça qui est important pour comprendre ces sociétés-là. Et en plus, les théories qui sont agencées.
Oui, c'est une question pour Catherine Hall, mais qui pourrait rejoindre aussi la remarque de qui pourrait rejoindre la question de Didier à Françoise Vergès, c'est sur dans ce partage entre le Atlantique noir et Atlantique blanc, où placer les travailleurs engagés blancs, les petits blancs dans le partage entre l'Atlantique blanc. Je dis ça seulement, bon, moi je sais où je les placerai, mais par rapport à ce que dit Williams dans son texte, quand il dit notamment les petits blancs n'avaient pas été épargnés du fouet non plus. En fait, le sort des esclaves n'était pas fondamentalement différent du sort des petits blancs. Et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de cette réflexion et qu'est-ce qu'on doit penser de ce que dit Williams là-dessus, sur la différence entre l'esclavage et engagisme.
Just to complete, mais je veux bien traduire aussi. En relisant, bon, je n'ai pas vraiment relu Williams, mais j'ai trouvé alors, cette question aussi. Donc, à un moment donné, il dit que le passage du milieu a été extrêmement exagéré. Le passage du milieu de... voilà. Et je ne comprends pas. Si je pense que Catherine connaît mieux que je ne connais Williams dans le fait qu'il y a une contradiction. Il part du fait que de toute façon l'esclavage n'est pas rentable. Il le dit déjà avant de. Alors ça reste incompréhensible pour moi. Alors que la thèse majeure de Williams, c'est de dire qu'on abolit l'esclavage parce qu'il est à un stade du capitalisme. Je sais pas si c'est trop compliqué. À un stade du capitalisme, il n'est plus rentable. Mais lui, il le pose d'emblée non rentable. Voilà. Est-ce que ça va?
Well, he doesn't quite say that because he quite understands that the wealth derived from slavery was used in part to fuel industrialization, and that's what he's interested in. But he's interested, you know, he says himself, his book is firstly a book about British history and secondly a book about the Negro. So his interest was in absolutely undermining the position of the humanitarian historians. They're, you know, they're at the heart of his attack. He knows very little about Britain after 1834. He completely is wrong about the extent of slave wealth after 1834. I mean, what we have demonstrated through our empirical work is that still by the 1870s, which as far as we've gone up, somewhere between 5 and 10% of the richest people in Britain were deriving wealth from their slave-owning connections. And those slave owners had gone to Australia, to Canada, to Mauritius, to, you know, all over. They're taking their wealth. I mean, we now know that, for example, the Queensland sugar industry, which was developed in the 1860s with a whole new system of unfree labor, blackbirding, they were deriving their knowledge about how to grow sugar from the Caribbean. One of Edward Long's descendants owned plantations in Queensland. These are the long legacies of slavery. which, you know, it's not to blame Eric Williams because he hadn't done that work. He, you know, we've learned a lot since he wrote that book. But the book is still useful because of the question which it poses, which is still an incredibly important question. You know, how was that wealth transmitted? How was that system of exploitation? How well did it work? And it worked extremely well for a very long time. Now, the thing I really want to insist on in relation to this discussion you've just been having about Marxism and capitalism is that, you know, I'm very clear that the particular formation that I'm interested in understanding is a very particular formation. You cannot generalize from how racial slavery in the 18th century Atlantic works in the period after indenture. You know, indenture isn't introduced until the 19th century. It becomes important, and the Indian Ocean is drawn into the whole system. So then we're looking at a very different organization of free and unfree labor. And I think that some of the most interesting work that's now being done, you know, across the globe, is to look at the extraordinary range of kinds of unfree labor which have been used in the wake of chattel slavery. So many different kinds, operating with so many different systems of racialization, always operating in a gendered way and with a racialized formation. But you cannot generalize from one to the other. I mean, they're very, very, or to me, they're very specific. But then, of course, the question we have to ask is, you know, we don't want to be stuck with just saying there are all these micro cases that we can do. We've got to be able to say something more general about the system of exploitation and inequality and how it works. But, you know, I think that at the moment we do not have that theory. We have a whole lot of strands of theoretical work which are crucial to draw on, whether it's Marx or Foucault or feminism or, you know, we can use them. We can use them. But we certainly do not have a grasp of the way in which global capitalism in its neoliberal form has developed from the 18th century to now. We just don't have it. We may have it one day, but it has to be rooted in the specifics of different examples and particular, for me, particular geographical and historical moments. Temporalities, they're so different. The places are so different. Haiti is so different from Jamaica. Jamaica is so different from Guadeloupe, and so on. I mean, we can talk forever about those variations, but we still have to try and find a way of talking together about what that might teach us about race, capital, inequality, geography, etc. I mean, that seems to me to be the project that we're all engaged in different ways at this time, globally. I mean, in the global south, in the north, you know, you name it.
Je suis très inspirée par le thème aujourd'hui. Voilà. J'avais deux remarques. D'abord, en lisant un peu par hasard, voilà, Flora Tristan, par exemple, et d'autres penseurs socialistes des années 1840, je me suis aperçue vraiment incidemment de la question presque obsessionnelle de la comparaison entre l'esclave et le prolétaire. C'est-à-dire qu'il faut absolument montrer la légitimité du combat socialiste, forcément en comparant l'esclave aux prolétaires. Et Flora Tristan, dans Promenade dans Londres, dit « Mais en fait, quand je regarde les ouvriers du Londres des années 1830, j'ai l'impression qu'il est encore plus malheureux que l'esclave, parce qu'il y a l'idée que l'esclave, au moins, il a la garantie du logis, du vêtement et du couvert. » En fait, c'est un peu ça. Alors que le prolétaire, dans les villes industrielles, n'a absolument rien de tout cela et qu'il est vraiment plus malheureux alors même qu'il est libre. Et ça, je trouve que ça revient aussi dans les écrits des premiers Marx et Engels des années 1840. Une comparaison, en fait, entre l'esclave et le prolétaire, en disant de toute façon... Enfin, Marx dit... Bon, il trouve aussi, que, un peu comme Flora Tristan, que le prolétaire est finalement encore plus malheureux. Mais que de toute façon, le prolétaire après l'émancipation, enfin pardon, l'esclave après l'émancipation, a comme seul horizon de devenir prolétaire. Voilà, donc ça c'est une remarque, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappée. Et j'ai une question qui est sur le mode d'organisation du travail. Donc je ne sais pas si vous avez quelque chose, enfin si vous avez travaillé là-dessus, moi ça m'interroge beaucoup. C'est sur la question de savoir si le travail dans les plantations, l'organisation du travail dans les plantations a eu un effet sur l'organisation du travail dans les mines et les usines de la toute première industrialisation. Par exemple, quand on voit le travail dans les mines, là aussi, dans la construction de cités ouvrières, où il s'agit de fixer la main-d'œuvre pour qu'elle soit au plus près du lieu de production, est-ce qu'on ne pourrait pas émettre l'hypothèse que ça viendrait du travail, de l'organisation du travail dans les plantations, ou alors est-ce que c'est une idée complètement farfelue? Est-ce que ce sont deux choses différentes? Ou alors vraiment, est-ce qu'on peut trouver une forme de parenté dans le mode d'organisation du travail? Voilà.
Which is that British investment in slavery, far from ending in 1834, as the story, the national story would tell us, is incredibly heavily invested in American, in the whole development of the South and cotton. The Liverpool Cotton Exchange is at the heart of the development of the Southern system of slavery. And quite a lot of the same families are passing capital from the time of compensation into, I mean, new families and old families. But, you know, the illusion, also Britain is heavily involved with sugar in Brazil, with sugar in Cuba. You know, there's no way the history of slavery and capitalism in Britain has ended in 1834. No way at all.
Oui, au sujet de prolétaires et esclaves, bon, c'est certain que dans le discours ouvrier, il y a eu énormément la comparaison avec l'esclave, et pour dire bon que nous sommes des esclaves, enfin tout un discours a été tenu à ce niveau-là. Dans le débat sur l'abolition de l'esclavage, comme je l'ai dit d'ailleurs après l'intervention, je crois, de Jean-Pierre, il y a une chose qui frappe, c'est qu'effectivement, il y a une discussion autour du statut à donner à l'esclave après l'abolition, et qui va se baser sur l'idée qu'il ne faut pas en faire un journalier. Le pire des statuts, quasiment, est celui de journalier. Et les maîtres vont pas arrêter de dire ça aux abolitionnistes. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Vous voulez en faire des journaliers? Et ils seront encore plus malheureux qu'esclaves, parce qu'effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, l'esclave a su dire la sécurité de l'emploi. Bon, donc, mais c'est un raisonnement qui est tout le temps tenu, quoi, où effectivement les maîtres disent, mais nos esclaves au moins, ils sont sûrs de pouvoir manger, ce qui n'est pas toujours vrai d'ailleurs, mais enfin, de pouvoir manger alors que le journalier, peut-être que demain, il n'aura plus de travail, etc. Et s'il est malade, on le soigne, l'esclave, tandis que le journalier se retrouve sans rien, etc. Donc, il y a tout un débat là-dessus. Et les abolitionnistes s'interrogent là-dessus parce qu'effectivement, ils ne peuvent pas répondre, étant donné le statut du journalier à cette époque, dire on va en faire des journaliers n'est pas, même si à un moment donné, Schellcher, par exemple, dit bah oui, quand même, si, il vaudrait mieux pour eux qu'ils soient des journaliers, malgré tout. Mais tout le débat va tourner autour de l'idée il ne faut pas qu'ils soient des journaliers. Et donc, les abolitionnistes vont proposer des statuts, ils vont proposer l'association dont a parlé Jean-Pierre. Bon, l'association, si on garde le système de plantation comme avant, en gros, on continue à travailler comme avant, sans le fouet, et on partage les bénéfices entre le propriétaire et les esclaves. Donc l'organisation du travail reste dans le système de l'association, l'organisation du travail reste la même, sans le fouet, je le répète, sans la violence esclavagiste, mais il y a l'idée qu'effectivement il y aura partage. D'autres, Bondy par exemple, va faire un certain nombre d'écrits où lui, il propose le métayage. Il dit il faut enfin faire des métayers, non pas des fermiers, parce que les fermiers, il faut qu'ils puissent investir, il faut qu'ils puissent payer leurs moyens de production, etc. Et ça, ça ne marchera pas. Ils ont pas de, les esclaves libérés n'auront pas de moyens. Donc, on va en faire des métayers, c'est-à-dire des gens qui vont reverser une partie de leur récolte à, au maître, enfin à l'ancien maître, au propriétaire. L'idée du métayage, c'est par contre, c'est une morcellisation de l'habitation. Donc là, on rentre dans un autre système de travail, complètement. Et les maîtres n'étaient pas très favorables, même si on va arriver après, avec le colonnage, on va arriver de fait à un système qui va être un système de métayage. Donc la réflexion va être effectivement très importante autour de ça, parce qu'il faut bien voir que l'idée que le prolétaire, c'est le pire des statuts quelque part les maîtres et les abolitionnistes le partagent. Donc ça, c'est quelque chose qui est posé. Alors maintenant, sur votre deuxième question, sur est-ce qu'on peut dire que la cité ouvrière s'organiserait en quelque sorte dans les pays miniers, autour, dans quelque chose de proche de la plantation, je dirais un petit peu que les mêmes causes causent les mêmes effets, dans la mesure où là, on a besoin d'une main-d'œuvre fixée à un endroit bien précis qui va aller tous les matins au travail, etc., et que donc les mineurs, ils peuvent pas être journaliers. Hein. Il faut qu'ils soient là tous les jours, tous les matins, qu'ils descendent. Il leur faut une formation quand même professionnelle dans une certaine mesure, etc. Il faut qu'ils soient là, quoi. Et donc on va les fixer là. Je ne suis pas sûre que c'est un modèle qui aurait été copié. Hein. Bien que, bon, aussi, il y a eu un tas de mines esclavagistes hein, dans le monde, hein, dans différentes sociétés.
Oui, merci. Alors, sur la question posée, enfin, un petit peu dans le sens de ce qui a été dit, là aussi, je crois que, bon, si on cherche des passerelles ou des circulations ou des débats qui ont eu lieu ou des influences qui ont eu lieu dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire dans le sens métropole vers colonie ou colonie, expérience des colonies vers la métropole, on en trouve plein. C'est-à-dire, autrement dit, mais il faut bien le poser dans le temps. Par exemple, sur la question de comment abolir l'esclavage et par quel système remplacer l'esclavage, c'est un débat sur 20 ans, 30 ans. Il faut bien s'en rendre compte, il faut bien l'inscrire dans sa temporalité. Et particulièrement pour la France et ses colonies, c'est un débat qui commence vraiment, vraiment, vraiment dans les années 1830, enfin qui est posé au grand public dans les années 1830. Je parle de l'abolition de l'esclavage, hein, pas de l'amélioration de l'esclavage, mais de l'abolition de l'esclavage, qui commence vraiment dans les années 1830. Et il continue encore après l'abolition effective de l'esclavage 1848 pour les colonies françaises. Donc c'est un débat qui dure. Et puis qui produit, bon, mais je n'ai pas tout lu, hein, mais il y a une énorme production d'ouvrages, de pamphlets, de textes, de discours, de journaux. C'est vraiment très, très, très important en termes, je veux dire, de sources. Hein. Quantitativement, c'est très important. Des concours, etc. Bref. Donc, et puis, beaucoup d'échanges épistolaires, par exemple, précisément avec Haïti. Par exemple, avec Haïti et avec l'expérience haïtienne entre les abolitionnistes français, anglais et américains. Donc, c'est vraiment, il y a une circulation d'idées. Alors, ça, c'est une première chose. La deuxième, il faut là-dedans fixer le contexte précis de l'abolition. Alors, pour revenir sur l'association, le contexte précis de l'abolition se fait, disons, dans un double contexte. Un contexte colonial dans la Caraïbe, pour prendre l'exemple seulement de la Caraïbe, je n'élargis pas l'océan Indien, en l'occurrence, seulement de la Caraïbe. Bon, il y a le précédent des Antilles anglaises. Il y a déjà eu l'abolition des Antilles anglaises. Et là, c'est un modèle. C'est un modèle qui est discuté pendant également très longtemps. Et puis, où on veut à la fois refaire un petit peu la même chose et en même temps le faire de façon différente. L'abolitionnisme radical, entre guillemets, de Schœlcher, dont on a pu voir peut-être certaines limites aussi, je dirais presque c'est un accident de l'histoire ou une opportunité. Elle fonctionne comme ça. Elle ne fonctionne pas comme une pensée longue, pas du tout. Et d'ailleurs, elle se pose plutôt dans une évolution d'une réflexion qui est celle-ci. Dans la pensée sociale, voire socialiste, européenne et française, toutes les réflexions sur les organisations sociales à mettre en œuvre, etc., l'esclavage ou l'abolition de l'esclavage semble fournir, non pas un modèle théorique, parce qu'il n'y a pas encore de modèle, mais un espace de réflexion, c'est-à-dire comment comment régénérer la société. C'est un débat qui est posé très souvent à cette époque-là. Comment régénérer une société issue de l'esclavage. Et le concept d'association qui est posé est au départ un concept socialiste. C'est un concept socialiste qui est récupéré dans le débat colonial et qui est récupéré par l'administration et par les planteurs, mais aussi dans une réalité qui est la suivante, il n'y a pas de numéraire. Donc même s'il y aurait une volonté de prolétariser les esclaves et des réticences idéologiques ou morales à les prolétariser ou autre, il n'y a pas de quoi les rémunérer. Donc la question se pose également comme ça. Dernier point sur l'association. Par contre, il y a des longues influences de ces concepts. Moi, je les retrouve. Je retrouve ça énormément dans le débat politique en Guadeloupe à la fin du 19e, début 20e siècle, sur la question de l'association et sur l'évidation, comme s'il y avait eu un évidement. Évidemment, on a rendu vide le concept socialiste d'association au détriment des esclaves. Et le mouvement, je fais un raccourci peut-être, le mouvement de Légitimus, le mouvement de socialiste noir qui apparaît en Guadeloupe à la fin du, enfin, début du 20e siècle, justement veut reprendre le concept d'association à son compte.
Peut-être avant de te passer la parole, j'en profite. Vous avez posé une question sur l'utilisation du mot d'organisation dans les... Il y a en ce moment ce qu'on appelle le management ethnique. Vous avez des travaux, si vous voulez, je peux vous donner les références après, des travaux justement qui montrent un peu comme on l'avait fait dans la division du travail en Occident, partie des moines et l'usine, on montre comment les formes de gestion des plantations ont aussi donné des règles, quoi, de commandement dans les entreprises aujourd'hui. Bon, il y a une thèse qui a été faite sur la comparaison entre Italie et États-Unis, et qui est intéressante dans ce sens, quoi. Mais voilà.
Non, mais je voulais juste ajouter, là, dans cette période abolitionniste, il nous manque quand même les nouveaux libres et les anciens esclaves, et qu'est-ce qu'ils font, eux? Et effectivement, ils ne deviennent pas des prolétaires. Et on attend d'eux qu'ils soient des prolétaires, et ils ne le deviennent pas. Et c'est eux qui inventent le travail journalier, qui va être payé parce qu'ils vont... ce qui va se passer, et Alain-Philippe Blérad avait utilisé une très belle expression, les contre-tendances à la prolétarisation. C'est à partir des anciens esclaves, comme ça s'est passé exactement à la Jamaïque, parce qu'il y a quand même beaucoup de... Moi, je trouve il y a beaucoup de points communs quand même dans toutes ces sociétés, même s'il y a des variantes. C'est le mot variante qu'il faut retenir. Et cette tendance cette contre-tendance à la prolétarisation, c'est un phénomène, mais qui nous amène très loin, parce qu'il nous amène même à penser, je crois, les modèles écologiques, entre guillemets, les modèles de gestion d'environnement, la question de la terre, que tu as très bien, c'est plus une, elle s'est protégée, cette question. J'ai bien aimé, on a fait un séminaire avec Garcin Malsa, etc., aux Antilles, où Malcolm Ferdinand est intervenu, et mon collègue avait appelé le séminaire la question foncière, et nous a interpellé. Le foncier, c'est l'Occident, c'est la norme occidentale, décolonisons, etc., bon, selon quoi il n'avait pas tort, et c'est la question de la terre qu'il faut retenir. Mais cette paysannerie, elle s'est abritée derrière le respect de la règle foncière. Parce que l'achat des terres a été, tu l'as dit, hein, Lanson Baudy l'a montré pour la Guadeloupe, ça a été les free villages en Jamaïque, ça a été une assise extrêmement importante pour que cette main-d'œuvre qui soit émancipée, et non pas seulement libérée ou l'esclavage aboli, et la voie de l'émancipation, c'était créer. Être dans une économie d'autosubsistance, à vocation d'autosubsistance, et qui a obligé le pouvoir colonial à mettre en place ce qui a fait la disparition, parce que ça ne marchait pas, le colonial, l'association, etc., ça ne marchait pas. Et c'est cette résistance qui a obligé à créer l'impôt par tête, obligeant à aller travailler à salaire pour payer cet impôt par tête, à on obligeait, je crois qu'il y avait des je me rappelle plus, c'est un peu loin quand je l'ai étudié, des taxes sur le vivrier, tout le régime du travail. Et cette paysannerie, enfin bon, je suis peut-être un peu déformée par l'objet d'étude qui a été le mien dans mes premières recherches, mais c'est la plus puissante résistance dans ce système. Elle existe déjà à l'état de proto-paysannerie, comme disait Mintz, pendant l'esclavage, mais c'est l'opposition à ce modèle de gestion de l'environnement qui est aujourd'hui le nôtre, hein, et qui a montré cette monoculture, etc. Là, on reproduit le modèle forestier, enfin, etc. Donc, je pense qu'il ne faut pas la négliger. Voilà, je voulais rajouter quelque chose, je ne m'en souviens plus, et tu voulais dire quelque chose.
Je voulais revenir sur sur la question de la comparaison entre esclaves et prolétaires. Enfin, il y a tout, dans la tradition marxiste notamment, bon, il y a tous des débats pour discuter de la validité de la comparaison. Ce qui me paraissait important de rappeler, c'est quand même chez Marx et d'autres, ça s'inscrit, cette histoire du prolétaire-esclave, dans une histoire qui est plus large quand même, qui est celle, comme l'a dit Achille Mbembe dans Critique de la raison nègre à partir des Lumières, une histoire de métaphorisation et d'occultation par métaphorisation de l'esclavage réel. Appeler le prolétaire esclave, c'est aussi masquer l'esclavage réel, et le marxisme hérite, bien sûr, je crois que Mbembe cite Rousseau, mais le marxisme hérite de ça, et c'est en partie de cette occultation. Ouais. Moi, j'avais lu. Oui, c'est ce que je dis. Chez lui, c'est les Lumières. Mais même, on trouve chez les colons américains au moment de la lutte pour l'indépendance, enfin, des colons américains blancs qui ont eux-mêmes des esclaves, parfois, qui se disent les esclaves de la couronne britannique. Donc, il y a des situations sans voir qu'il y a une. Voilà, donc je pense que c'était important, cette histoire.
Je pense que ce n'est pas forcément que métaphorique, parce que dans le système, le matérialisme historique dont vous avez parlé, il y a aussi des stades de développement où la société fonctionne sur la base de l'esclavage. Donc, en fait, ce n'est pas que métaphorique, c'est aussi une référence historique. Non, mais pour la théorie marxiste, ce n'est pas le 18e qui est le paragon de l'histoire. Hein. Voilà, ça c'est un moment, mais le reste compte aussi, y compris les sociétés dans la Grèce antique et tout ça, ça compte dans la construction de la théorie marxiste. Donc je ne suis pas sûr que ce soit complètement métaphorique.
Very brief. I just wanted to come back to your question about the black-white Atlantic. And what I want to say about it is that, of course, the notion of an Atlantic that is black and white is a racial trope. And the whole point is to undo it, because the idea that there is black and white like that, I mean, that is precisely the work that the slave owners did. That's what they tried to make, a work like that. But of course, the reality was that there were all kinds of people across that Atlantic who did not fit in that way into that definition. So I'm using it in that sense as well, that, you know, that the only way we can understand it is as a racial formation. Sorry, that was just thinking about it.
Merci beaucoup pour toutes vos interventions. Alors moi, il y a une question qui me taraude. Alors je suis d'un autre domaine, mais je m'intéresse à la question de la servitude et de l'organisation du travail dans l'Égypte ancienne. Voilà. Donc, par rapport aux discussions, nous avons vu que les premiers Indiens sont arrivés à La Réunion en 1828, donc avant l'abolition de l'esclavage. De même, on sait que les Noirs du Congo sont arrivés aux Antilles juste après l'abolition, mais toujours dans le cadre d'un travail comme devoir qui a perduré jusqu'en 1884, si j'ai bien retenu. William, quant à lui, propose de voir l'abolition de l'esclavage dans les Caraïbes anglaises sous un aspect économique plus qu'humaniste. Et on sait qu'économiquement, l'Europe s'est partagée l'Afrique à Berlin en 1885, ce qui a conduit à des travaux forcés, par exemple le Congo au champ entre 1821 et 1834. Donc voilà ma question. Mis à part la taxonomie, qu'est-ce qui différencie l'esclavage du travailleur forcé de Beauport, du Bossal, du travailleur forcé du Congo au champ ou de l'Indien qui est arrivé en 1828? Surtout vu qu'on vient de voir qu'on peut tenter la comparaison entre le prolétaire et l'esclavage. Donc je me posais cette question.
J'ai une question pour moi-même, et il n'y a pas de raison que je sois le seul ennuyé, donc je vais vous en faire part. Je me demandais, après ces discussions, on a beaucoup échangé sur les circulations d'idées, et en fait, ça me pose la question d'ancrer ces réflexions dans un peu la réalité des circulations réelles des personnes, et peut-être des livres et des journaux, etc. Parce que bon, certains des auteurs dont on a parlé, ils ont concrètement beaucoup circulé. C'est-à-dire James de Trinidad aux États-Unis, en Grande-Bretagne, etc., et retour. Mais je pense que je trouve que notre discussion, elle a un peu été du côté de, justement, un peu du lexique et du concept et des idées un peu. Qui ne sont plus très ancrés, en fait. Par exemple, quand je pensais au débat sur Haïti, c'est vrai que les positions qui ont été émises, elles dépendaient beaucoup, à un moment donné, des puissances et des pouvoirs réels qui avaient la capacité derrière, peut-être de soutenir telle ou telle partie, telle ou telle organisation, tel ou tel intellectuel qui allait, en fonction de ce qu'il disait sur la Chine, pouvoir avoir accès à des prébendes. Donc voilà, je trouve que c'est tout un volet qui mériterait d'être exploré, quoi.
Oui, c'est juste parler dans ce sens-là, parce qu'en fait, mon sentiment aussi, c'était que tout au long de la journée, on avait une histoire, différentes histoires sociales des idées, et avec des pleins et des vides, il y a des choses, enfin, ou demi-pleins, etc., il y a des questions qu'on se pose, et puis une histoire sociale des faits, peut-être, politique et autres, et qu'en fait, je pense que ça ne s'oppose pas. Pour répondre peut-être, ça ne s'oppose pas, mais c'est vrai que ça fait que quand on écoute, parfois on est un peu tiraillé entre deux tendances. On se dit, alors Williams, par exemple, je disais, est-ce que Williams, il a été discuté aussi, parce que d'accord, James, il est discuté ou pas, hein, à Haïti, mais Williams, quid de Williams, quoi. Et donc, ok, mais finalement, voilà, et puis en parallèle, on a effectivement ce front d'une réflexion pointue sur les faits. Donc toutes les questions qui sont là, c'est autour de ça. Est-ce que il y a des homologies transhistoriques et autres, et puis des voix qui nous sont données, par exemple Catherine Hall, sur le fait que on est obligé de regarder de près, faire des microstorias des slave owners pour voir effectivement que peut-être qu'ils ont eu de l'argent qui venait d'Angleterre, mais ils ont aussi redistribué dans le pot commun, donc il y a le capitalisme financier britannique et industriel, voilà. Et puis dans le cas de Jean-Pierre Sainton, on regarde de près les documents quand on pouvait, et là effectivement on voit qu'il y a une rationalisation des parcelles et tout ça. Donc je pense qu'on est obligé, face à ce type de questions là, à faire les deux, en fait, hein. Pas opposer ce qu'on fait d'habitude, histoire des idées et des biographies et tout ça, et puis histoire des faits. Non. En fait, il faut travailler les deux, et c'est un peu, je pense, un des défis de cette journée qui ouvre sur plein de questions.
Non, juste deux remarques très rapides, puisque pour ne pas tenir Jean. À votre question, qu'est-ce que c'est? C'est parce que l'esclave, eh bien, il est un homme, une femme, un enfant, une personne âgée. Donc, pour moi, il n'y a pas l'esclave, il n'y a pas le corps esclave. Je veux dire, donc, quand vous me disiez, et le corps, c'est quoi? Un corps féminin, ce n'est pas tout à fait un corps masculin dans l'esclavage. Ils n'ont pas été traités de la même manière. Les femmes et les hommes n'ont pas été traités de la même manière. Donc, la question de la reproduction, elle a été portée par les femmes. C'était elles qui étaient ou déportées ou violées pour faire des enfants. Donc c'est une première chose. Et d'autre part, pour ce que vous posez sur la question, c'est un peu aussi ce que disait juste Catherine auparavant, c'est qu'il y a de plus en plus de travail sur ce qu'on appellerait le travail libre ou non libre, et toutes les formes qu'ils ont eues à travers, et qu'ils ont, et quelles sont par exemple les formes aujourd'hui, et comment ça se passe localement, et comment ça se passe aussi, et comment on se faisait une remarque, le droit intervient là-dedans aussi. Je veux dire, comment le droit va définir à des moments donnés ou dans des lieux particuliers ce que c'est que le travail libre ou non libre. Donc il y a tout un... c'est pas simplement la conception comme ça, c'est aussi la manière dont la loi aussi va va transformer ces choses, à la fois la conception, mais à la fois aussi comment c'est vécu par les personnes. Et aujourd'hui, on voit il y a tout un tas de luttes autour de ça. Donc la question du travail libre entre guillemets d'ailleurs, hein, pour beaucoup de gens, et non libre, est absolument un champ d'analyse énorme aujourd'hui, parce que justement, pour sortir un peu des choses binaires de libre, non libre.
Juste deux minutes, je ne serai pas long. Je trouve que la conclusion que tu as faite, excuse-moi, la conclusion que tu as faite est tout à fait pertinente et pourrait bien effectivement résumer un petit peu cette journée, en tout cas ce qu'il faudrait en tirer, c'est-à-dire le croisement à la fois, si tu veux, alors je dirais le croisement des faits historiques et sociologiques, dans la réalité sociale elle-même, dans la micro-réalité sociale, dans la macro-réalité sociale, le croisement des représentations ou des concepts et puis aussi des terminologies. Et pour répondre effectivement à ce que tu disais, bon, l'esclave, c'est d'abord une réalité sociale, une réalité juridique. C'est quelqu'un qui ne s'appartient pas. Mais légalement, officiellement, c'est ça. Et maintenant, entre cette réalité-là totale et puis tout un éventail de suggestions ou de captivité de, à la fois de l'individu, de son corps, ou du corps féminin, ou de son corps, de sa reproduction, et de son être lui-même, de son temps. Et là, tu l'as très bien montré, je pense à l'ouvrage de Caroline. C'est quelque chose de complètement essentiel. Il définit les différentes formes de suggestion. Et peut-être, je n'ai pas insisté là-dessus, mais je l'avais montré parce que ça aurait alourdi l'exposé. Le texte de cette chanson que j'ai montré au tableau, qui date des années 60, la prière de l'esclave. Et en fait, il faudrait faire une analyse textuelle de cette chanson-là. En 1960, il parle de lui. Il ne parle pas d'un esclave hypothétique. Il parle de lui. Il a 30 ans et depuis 30 ans attaché à la terre, etc. Donc, il y a effectivement une correspondance, une situation entre la situation de l'esclave et la situation du... Voilà ce que je voulais dire. Et c'est très important parce que ça fixe énormément les mentalités. Ça fixe les mentalités, ça fixe les cultures, ça fixe les réactions, ça fixe les références, des choses. Quoi. Donc, effectivement, donc il faut croiser ces différents regards-là pour mieux restituer la totalité de ce qui se passe, de ce qui s'est passé.
Je dis le mot final, tu peux le faire, Mathieu ou... Bon, alors voilà, on est obligé de partir de ce qui est. Alors, on vous remercie à tous, public et bien sûr participants. On vous rappelle notre prochain rendez-vous, 11 décembre, avec le campus caribéen des arts, donc sur la question de l'art. Et on va boire un pot à côté et après, on se retrouvera pour le restaurant avec nos interlocuteurs. Voilà. Personne ne m'écoute, mais bon, on s'en fout.